14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le chirurgien reconnaît pourtant avoir vu ses parents quelques heures avant leur décès. C'est même lui qui a fait la prise de sang, qui a permis ensuite aux enquêteurs de déceler des traces de curare. Jean-Paul Gournier invoque le possible suicide de ses parents, âgés de 75 et 81 ans, mais jamais la seringue ni le flacon mortel n'ont été retrouvés.
Bonjour. Curare, héritage et suspicion. Il faudrait ajouter mystère, car 10 ans d'enquête et 2 procès aux assises n'ont pas réussi à expliquer la mort d'un couple de personnes âgées. Les Gournier, André et Geneviève Gournier, une double mort simultanée dans le huis clos d'un salon devenu leur tombeau. Les investigations ne vont cesser d'osciller entre un pacte suicidaire conclu par les époux ou un assassinat. Leur fils, Jean-Paul Gournier, un chirurgien réputé, va être désigné comme le suspect numéro 1. Un homme qui aurait pu tuer ses parents, et pas vraiment au nom d'une quelconque compassion médicale. Dans ce théâtre d'ombre, les enquêteurs et les juges vont devoir se méfier sans cesse des apparences, des portraits changeants faits des uns et des autres. Pourquoi la vérité n'a-t-elle jamais jailli dans cette affaire? Qui donc a plongé dans un sommeil définitif un couple qui ne s'aimait plus? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Gournier, du nom de ce couple de retraités installé dans une commune limitrophe de Saint-Étienne dans la Loire et que l'on va retrouver mort chez eux à l'automne 1999. Ce mardi 30 novembre 1999, en milieu de matinée, la femme de ménage du couple Gournier garde son doigt appuyé sur la sonnette de la porte d'entrée. Personne ne répond dans le pavillon de cette rue tranquille de Saint-Priest-en-Jarret. André Gournier, 74 ans, et son épouse Geneviève, 92 ans, sont pourtant généralement prompts à venir ouvrir. Mais ce matin-là, ni l'un ni l'autre ne se manifestent. Les voisins sont alertés, les pompiers forcent la porte. Ils entendent le poste de télévision qui fonctionne dans le salon où un spectacle macabre les attend. André Gournier, habillé comme s'il allait sortir, lunettes sur le nez, gît de tout son long sur le canapé, la jambe droite pendante, la tête sur l'accoudoir. Geneviève Gournier, vêtue d'un corsage et d'un pantalon, est affalée dans le fauteuil. La vie du couple semble brutalement s'être arrêtée, sans raison apparente. Les décès du mari et de la femme sont constatés. Aucun désordre ne règne dans l'appartement, pas de traces d'effraction, pas de lettres qui pourraient expliquer cette scène qui ressemble à un suicide. Les pompes pied note toutefois que le gaz de la cuisinière était ouvert sous une cocotte minute vide et que le fer à repasser était branché. Celui-ci a consumé en partie un rideau qui ne s'est pas véritablement embrasé. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte. Les autopsies d'André et Geneviève Gournier ont bien du mal à expliquer les causes de leur décès. L'ingestion d'une substance toxique aurait-elle occasionné la décompression cardiaque? Un mois après le drame, des analyses plus poussées de toxicologie permettent de noter chez l'homme des traces de chloroquine, mais à un taux simplement thérapeutique. André Gournier, ingénieur des arts et métiers, avait longtemps été entrepreneur en Afrique et prenait de la chloroquine pour soigner sans doute des accès de paludisme. En revanche, le mari, tout comme son épouse, présente dans l'organisme du tracrium, un produit qui contient du curare, une substance bien spécifique puisqu'elle est uniquement utilisée par les anesthésistes et quelques médecins. Le tracrium est injecté en intraveineuse. Il n'est pas facile de s'en procurer. Celui-ci n'est généralement disponible que dans l'enceinte d'un bloc opératoire. Selon le dosage, le produit bloque les centres respiratoires du patient. L'arrêt cardiaque peut survenir en quelques minutes. Dans le cas présent, l'expert parle d'un empoisonnement, même si aucune seringue n'a été retrouvée dans la maison. Les Gournier ont une fille, Marie-Béatrice, et un fils, Jean-Paul. C'est ce dernier, entendu dans l'heure suivant la découverte des corps, qui retient l'attention. Il est en effet la dernière personne à avoir vu le couple vivant, et qui plus est, il est médecin. ce chirurgien de 40 ans, habite lui aussi à Saint-Priest-en-Jarret, dans une rue toute proche. Il est passé chez ses parents la veille, vers 19h30, 20h. Il regardait la télé. Il leur a fait une prise de sang car il se plaignait de malaise. Le docteur Gournier craignait une intoxication alimentaire depuis qu'ils avaient consommé des champignons lors d'un dîner. Il remet aux enquêteurs les prélèvements sanguins effectués la veille et qu'il n'a pas eu le temps de confier à un labo. Ce sang ne contient alors aucune trace de trachrium. Les policiers pensent une chose, la défense pense autre chose. Les conclusions d'un expert toxicologue évoquent clairement un homicide volontaire de type empoisonnement. Tous les regards vont à nouveau se porter sur le docteur Gournier, qui manquerait de sincérité. 25 octobre 2000, le docteur Jean-Paul Gournier répond aux enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête ouverte pour empoisonnement avec préméditation. Il dit ignorer les causes de la mort de ses parents avec qui il avait des rapports, poursuit-il, tout à fait cordiaux et dépourvus d'animosité. Il explique avoir tout d'abord pensé que sa mère, Geneviève, s'était débarrassée de son père. Elle ne supportait plus cet homme qui n'avait cessé de la tromper avec d'autres femmes. En 1974, alors âgé de 50 ans, il avait séduit une nièce de la famille qui en avait tout juste 20. Il avait eu plusieurs maîtresses et fréquentait toujours une prostituée. À certains de ses amis, Geneviève, humiliée et furieuse, avait dit un jour « Je le tuerai ». Avant de me tuer, je ferai les choses proprement. Le fils raconte qu'il a désormais changé d'avis. Il est convaincu que son père et sa mère ont mis fin à leur jour d'un commun accord car ils ne supportaient pas leur déchéance. André Gournier avait des pertes d'équilibre et avait chuté à plusieurs reprises. Il jouait de moins en moins au golf. Geneviève, quant à elle, avait du mal à monter les escaliers. Entendue lors de l'enquête, la fille du couple, Marie-Béatrice, confirme l'entente dégradée de ses parents qui aurait pu provoquer un geste fou de sa mère. Elle ne croit pas à l'implication de son frère cadet dans un quelconque empoisonnement. Les enquêteurs ne sont pas tout à fait sur cette ligne. Ils estiment que Jean-Paul Gournier a trop souvent varié de version pour être parfaitement honnête. À certaines de ses connaissances, le médecin a évoqué tour à tour une intoxication au monoxyde de carbone, un empoisonnement alimentaire, puis un suicide collectif. Il en veut pour preuve le fait que son père avait, par écrit, définitivement arrêté les comptes du ménage le 15 novembre 99, 15 jours donc avant la soirée fatale. Le 5 mars, puis le 21 mars 2001, devant le juge d'instruction Jacques Chauveau, le chirurgien ressort la version d'un geste délibéré de ses parents. Il explique que sa mère a pu se procurer du trachrium lors d'une hospitalisation. Ce produit se trouvant, selon lui, sur les chariots d'urgence ou lorsqu'elle rendait visite à un médecin hospitalier après avoir été rapatriée d'urgence d'un voyage en Indonésie. Juste avant de quitter le tribunal de Saint-Étienne, le juge confie à Jean-Paul Gournier qu'il croit en son innocence. Octobre 2001, le juge Jean-Luc Jaillet reprend le dossier. Il ne croit pas, lui, à la thèse d'un suicide familial ou d'un meurtre commis par l'épouse, ancienne infirmière, qui se serait ensuite suicidée. Selon lui, l'injection du trachrium l'aurait très rapidement paralysée et tuée. Elle n'aurait pas eu le temps de faire disparaître la seringue et l'ampoule, introuvables dans la maison. Un tiers a donc fait l'injection. Le juge Jaillet s'interroge sur le train de vie du docteur Gournier, qui, malgré de confortables revenus, n'arriverait pas à joindre les deux bouts. Il avait emprunté à sa mère 400 000 francs. L'héritage de ses parents fortunés, 2,5 millions de francs, aurait pu le sortir de cette mauvaise passe. Jean-Paul Gournier espérait obtenir un non-lieu, mais il reste mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Aucun mandat de dépôt n'est cependant décerné contre lui. Des années vont s'écouler sans que l'enquête ne connaisse de rebondissements majeurs. En février 2006, le juge d'instruction va finalement estimer que le docteur Gournier doit être renvoyé devant une cour d'assises. 16 juin 2008, Jean-Paul Gournier, chirurgien bien connu dans plusieurs cliniques de Lyon, Saint-Étienne, est dans le box des accusés de la cour d'assises de la Loire. Le médecin Comparé libre, il n'a jamais effectué un seul jour en détention. Il est suspecté d'avoir tué ses parents lors d'une prise de sang. Il aurait vissé une dose fatale de tracrium contenant du curare sur une seringue, puis maladroitement maquillé le double homicide en suicide familial. Quelques mois avant le procès, le docteur Grosnier avait indiqué au journal Le Progrès qu'il allait jouer la transparence. « Je conteste tout. On m'a toujours appris à ne jamais trahir la confiance des gens. » À l'audience, son avocat, Maître François Saint-Pierre, conteste les conclusions des experts sur la mort quasi instantanée de Geneviève Grosnier. Sitôt le curare injecté, ses muscles se seraient paralysés et le cœur se serait arrêté. La défense indique tout au contraire que Geneviève a certainement eu le temps de se débarrasser de la seringue en la jetant par exemple dans la cheminée. « Je veux bien tous les reproches, mais pas celui d'avoir tué mes parents », lance l'accusé. Pour l'accusation, l'argent, cet argent qui faisait défaut à un chirurgien croulant sous les dettes, serait le mobile de son double crime. La certitude de mettre la main sur une bonne partie de l'héritage. Sa sœur, Marie-Béatrice, vole au secours de l'accusé. « Maman a mis à exécution ce qu'elle avait décidé, ce n'est pas Jean-Paul », assure-t-elle. L'avocate générale réplique « Il n'y a pas de crime plus odieux que celui qui consiste à donner la mort à ceux qui vous ont donné la vie ». L'accusation admet des failles, l'absence de preuves, mais il ne s'agit pas d'un double suicide. « Je suis innocent d'une telle barbarie », répond le docteur Grosnier. Les jurés ne le croient pas. 25 ans de prison. François Saint-Pierre, avocat de Jean-Paul Grosnier, fait aussitôt appel du verdict. Il souhaite que son client soit remis en liberté. Tout va se jouer un an plus tard, lors du deuxième procès. Le 22 juin 2009, Jean-Paul Grosnier, 49 ans, réapparaît devant la cour d'assises d'appel de Lyon. Une année passée en détention a émoussé son arrogance et ses certitudes. Il explique ainsi pourquoi il est resté de marbre quand il a appris la découverte des corps de ses parents. « J'étais glacial car j'étais glacé. J'ai aussitôt pensé « Maman a fait une connerie. J'aime mes parents. Même si ma mère me l'avait demandé, je n'aurais pas pu les tuer. » Il ajoute, s'ils avaient été grabataires, peut-être, mais pour leur âge, ils n'allaient pas trop mal. Procès qui semble être davantage favorable à l'accusé que le premier. La partie civile, à savoir la sœur de Geneviève Grosnier, s'est désistée. Des témoins viennent à la barre décrire ce chirurgien respecté, un plombier du cœur. Un bon garçon. Papa a toujours été coureur, raconte l'accusé. Maman me reprochait de ne pas prendre parti contre papa. Je préfère penser qu'ils étaient d'accord pour mourir ensemble. Le docteur Grosnier ajoute toutefois une nouvelle version. Selon lui, sa mère a tué son mari sous prétexte de le vacciner contre la grippe. Elle a ensuite tenté d'incendier la maison, puis s'est donné la mort. Avant que les jurés se retirent pour délibérer, le docteur Grosnier affirme à la lecture des rapports et l'examen du bol alimentaire que ses parents sont morts à 23h, heure à laquelle il était en famille chez lui et non pas à 20h. Ses avocats indiquent que si leur client avait voulu faire croire à un suicide, il aurait laissé bien en vue la fameuse seringue. Ce dossier ne repose que sur des devinettes. On ne condamne pas un homme sur des hypothèses, indique ainsi maître Yamina Castelli. 4h30 de délibéré, Jean-Paul Grosnier est acquitté.
C'est 10 ans de cauchemar qui se terminent. Parce que m'accuser d'avoir tué père et mère pour de l'argent, c'est purement scandaleux, mais ça a été fait. Il y a une cour d'assises qui m'a reconnu coupable dans certaines conditions. La cour d'assises d'appel de Lyon m'a rendu mon honneur.
À 22h30, le médecin quitte la maison d'arrêt de la Talaudière, près de Saint-Étienne, attendu devant la porte de la prison par son épouse et une poignée de proches. Acquitté par la justice, Jean-Paul Grosnier va toutefois ressasser longtemps son amertume. L'enquête ne donnera aucune clé supplémentaire sur la mort de ses parents. Le médecin ne pourra plus jamais en parler. Il est décédé à la mi-décembre 2021. Le 14 décembre 2021, Jean-Paul Grosnier, chirurgien cardiovasculaire âgé de 62 ans, rend son dernier souffle à Saint-Étienne, entouré de sa famille qui a toujours cru en son innocence. Malgré son acquittement le 25 juin 2009, il se sentait encore meurtri par cette épreuve. « Personne ne me rendra ma vie d'avant ». Même si la pluie s'est arrêtée le 25 juin. En 2012, il publie un livre témoignage intitulé « L'innocence empoisonnée » dans lequel il détaille les mécanismes d'une erreur judiciaire, ses 10 années de procédure et d'infamie qui se sont abattues sur lui. Les experts, médecins légistes, enquêteurs et magistrats ont voulu faire rentrer les faits à coups de chausse-pied, racontait le médecin. Jean-Paul Gournier n'a plus jamais livré aucun détail supplémentaire susceptible d'enrichir les investigations. L'enquête n'a connu aucun rebondissement. Plus de 20 ans après le double empoisonnement de Saint-Priest en Jarret, personne ne sait qui a tenu la seringue utilisée pour tuer André et Geneviève.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.